Interception. Bonjour. C'est à un courant religieux que s'intéresse Interception ce dimanche. Ces derniers mois, et à maintes reprises, vos journaux ont évoqué le saccage de sanctuaires soufis par des islamistes radicaux. On en a parlé au Mali, bien sûr, avec la destruction des mausolées de Tombouctou, mais aussi en Tunisie, en Libye et au Pakistan. Pourquoi les fondamentalistes les plus violents de l'islam s'en prennent-ils ainsi aux traces laissées au fil des siècles par les soufis, qui sont eux aussi des musulmans ? Pour le comprendre, il faut bien sûr savoir ce qu'est le soufisme. Le mot n'est plus tout à fait inconnu des Français, depuis que le slameur Abdelmalik s'en réclame. Peu d'entre nous savent l'influence que le soufisme a exercée au XVIe siècle sur la très catholique Thérèse d'Avila. Et puis on ignore souvent qu'en Algérie, l'émir Abdelkader, résistant à la colonisation française, était un théologien soufi. En France aujourd'hui, plusieurs confréries, originaires surtout d'Afrique du Nord et de l'Ouest, s'emploient à porter un message d'un islam ouvert, tolérant. Elles le font activement, mais dans la plus grande discrétion. Aux antipodes du salafisme, le soufisme, c'est un reportage d'Alain Le Gouguec pour Interception, il commence dans le quartier de Barbès, dans le 18e arrondissement de la capitale.
Interception, le magazine de la rédaction.
Barbès, Rochechouart.
Une boucherie Alain à Barbès. Bonjour messieurs. Je fais un reportage sur le soufisme. Est-ce que vous pourriez me dire ce qu'est le soufisme ?
Je sais pas monsieur.
Vous savez pas ce qu'est le soufisme ?
Non.
Bonjour monsieur, c'est une boucherie Alain ici ?
Faut demander le patron en chef.
J'ai juste une question à poser, j'aimerais savoir si vous savez ce qu'est le soufisme dans l'islam.
Ça veut dire ?
C'est la question que je vous pose. Est-ce que vous avez déjà entendu parler des soufis dans l'islam, chez les musulmans ?
Soufi, ça veut dire quoi ? Je ne connais pas ce qu'est soufi.
Vous ne connaissez pas ?
Non.
Et vous connaissez ?
Non, je ne connais pas. Moi, je ne travaille pas là.
Vous ne travaillez pas là ? Ça ne sert à rien, vous pourriez connaître quand même.
Je cliente là. C'est quoi des soufis ?
Les soufis ?
Oui.
Ce sont des gens qui existent depuis l'époque du prophète et qui professent un islam de paix, très spirituel, etc.
Ah oui, comme ça. Je sais pas, hein. Désolé.
Ok, merci.
Allez,
bonne journée.
Chance. Merci, allez, au revoir.
C'est un jour de pluie et de grêle sur la région parisienne. Je me dirige sous mon parapluie vers le bureau de Raleb Bencher. Raleb Bencher est l'animateur, le présentateur de l'émission Islam sur France 2 chaque dimanche. Il préside aussi la Conférence mondiale des religions pour la paix.
Bienvenue.
Merci.
Merci bien.
Comment allez-vous ?
Je vous en prie. Non, mais c'est normal. Je vais mettre simplement ça sur vibreur pour qu'il ne nous embêtera pas trop.
Bien. D'abord, d'où vient le soufisme ?
Ben, le soufisme est un mouvement de soufis. Alors, qui sont-ils ? Il y aurait 4 à 5 étymologies possibles. Bien qu'on privilégie la toute première, qui est l'habit en laine. Rappelons les frocs rapiécés en laine, souf en langue arabe, les gens habillés en laine. C'est l'habit de ceux qui ont renoncé au bien de ce monde. Ça, c'est au niveau de l'étymologie, au niveau de l'apparition du soufisme. D'aucuns, parmi les chroniqueurs, les historiographes, musulmans ou pas, font remonter la chaîne du soufisme jusqu'au prophète. ou à tout le moins jusqu'à ses premiers compagnons. Donc on a parmi les primo-musulmans des soufis.
Qu'est-ce qui définit largement le soufisme ?
C'est surtout laisser place à l'infinie tendresse de Dieu qui rejaillit sur autrui. On ne peut pas prétendre aimer Dieu et lui vouer un culte pur et sincère sans le traduire par des actes concrets à l'égard de l'homme qui est son icône et son vicaire sur terre.
Il existe un soufisme ou des soufismes dans le monde ?
Il eût mieux valu parler davantage de la voie soufie ou de l'aspiration à être soufi que du soufisme comme doctrine. Mais bon, à mon sens, il doit y avoir une diversité de voix soufis, VOX ou VOE, de par le monde et à travers l'histoire. Dans les figures de proue sont Rumi, par exemple, né à Balkh, dans une sorte de bourgade dans l'Afghanistan actuel, Hafez de Shiraz, qui disait dans un de ses poèmes « En vérité, je vous le dis et suis heureux de ce que je dis. Adepte de l'amour, des deux mondes me suis-je affranchi. Pardonnez, Seigneur, aux hommes leur friction. N'ayant pas vu la vérité, ils s'abreuvent de fiction. Ne juge pas les libertins inspirés, toi qui vantes tant ta pureté. Que je sois vertueux ou pécheur, que t'importe ? L'indulgence est la marque des âmes fortes. Chacun finira par récolter ce qu'il a semé, et tout homme aspire à l'ami, qu'il soit ivrogne ou éveillé. Partout est la demeure de l'ami, aussi bien la synagogue que la mosquée.
On est ici à l'espace Reuilly dans le 12e arrondissement de Paris à l'occasion du Maolid. C'est l'anniversaire du prophète des musulmans, le prophète Mohammed. Des centaines de personnes sont là à l'appel de quatre confréries soufis, des hommes, des femmes, des enfants, tous ensemble. Et pas de signe distinctif parmi tous ces gens. Il est difficile de dire quelle est leur religion, leur provenance. C'est une réunion publique comme il en existe tous les jours en France.
Ce courant, il est très ouvert. C'est l'ouverture, c'est l'amour, c'est le partage. Aucune distinction de foi, aucune distinction de race, aucune distinction d'origine. Le soufisme survole tous ces clichés-là. Et c'est ça qui fait cette force de ce courant.
Alors, généralement, on dit, à propos du soufisme, que c'est réservé aux intellectuels musulmans.
Moi, je suis bûcheron et lagueur.
Bûcheron et lagueur.
Ouais.
Et est-ce que vous avez l'impression d'être marginal ou déplacé au milieu de l'islam soufi ?
Bah, pas du tout, non. Il y avait Daïm qui était à côté de nous, là. Lui, il est câbleur. Il y a Djibril à côté, là, c'est un cuisinier. Non, je pense pas, non. Il y a beaucoup d'ouvriers aussi. Hein. Je pense que, justement, on voit... Je pense qu'il y a des gens qui sont dans les confréries soufis qui se croiseraient peut-être jamais autrement parce qu'ils sont vraiment d'horizons différents. Vous allez croiser le docteur, vous allez croiser toutes sortes de gens, je pense. Hein. C'est ça, c'est une quête. Il y a une fraternité authentique, je pense.
Vous avez l'air de dire que les soufis sont des musulmans comme les autres, mais aux yeux des islamistes radicaux, on l'a vu récemment au Mali, on l'a vu en Tunisie, curieusement, ils n'ont pas l'air d'être des musulmans comme les autres puisqu'on s'en prend à leur mausolée, par exemple.
Mais moi, je voudrais... Je voudrais pas parler de ce que je connais pas, quoi. Moi, j'ai un conseil que j'ai eu une fois d'un maître spirituel, il m'a dit témoigne de ce que tu vis, quoi. Ah mais je vais pas parler de ce que je sais pas, quoi. C'est sûr que moi j'ai croisé des musulmans qui avaient cette lecture comme ça qu'on dit rigoriste, quoi. En tout cas, une chose qui est sûre, c'est qu'on se demande comment ils s'imposent comme l'orthodoxie alors que c'est eux les marginaux, quoi. L'islam, c'est ce que vous voyez aujourd'hui, c'est ça l'islam. Puis il y a un mot qu'on lâche pas souvent, mais c'est, voilà, c'est cet amour. C'est une clé.
J'ai souvent entendu dire que le soufisme, c'était le bouddhisme de l'islam. Est-ce que c'est une bonne définition?
Dès qu'on veut voir quelque chose de bien dans l'islam, il faut que ça vienne d'ailleurs. Mais non, c'est l'islam, encore une fois, le soufisme. Moi, j'aime pas. On a peur de dire qu'on est musulman bientôt. Hein. Bon, en plus, musulman, normalement, c'est un statut. Parce que sans être un grand arabisant, aslama, en français, on traduit se convertir, justement. Mais aslama, dans aslama, il y a salam. Ce serait entrer dans la paix, donc ce serait bien. Avant de se dire musulman, théoriquement, il faudrait déjà. Même ça, ce serait déjà un niveau, quoi.
Être en paix avec soi-même.
Voilà.
On est à l'opposé, enfin je vais pas dire qu'on est à l'opposé, que les soufis sont à l'opposé des extrémistes, mais quand on est extrémiste, c'est que on est figé sur certaines idées, que ce soit chez les catholiques, chez les juifs, chez les musulmans, et dans aucune religion, l'extrémisme est né à. Enfin, est un exemple à suivre. Après, forcément, en tant que musulmane, ça nous touche d'autant plus quand on voit des extrémistes musulmans qui prônent leur façon de voir les choses comme la façon légitime, la façon unique de pratiquer l'islam. Or, c'est pas du tout le cas. Donc, ça nous désole d'autant plus qu'ils donnent une très mauvaise image de l'islam qui est reprise par les médias. C'est une religion de partage, comme on vous l'a dit, comme ça a été dit. Et du coup, c'est pas du tout ce qui est reflété par les extrémistes. Bien au contraire. Voilà.
Sur la scène de l'espace Reuilly, 6 hommes et 6 femmes, des musiciens. La musique et la danse font partie intégrante de la culture soufie. Voilà, arrivé à Nice, sur la côte d'Azur, dans les Alpes-Maritimes. Je suis en compagnie de Djalil, qui est venu me chercher à l'aéroport. Et nous allons quitter l'aéroport de Nice, côte d'Azur, pour aller dans l'arrière-pays, afin de rencontrer le cher Khaled Bentounes, qui est le chef spirituel de la voie soufie Alaouia. C'est beau ici, hein. J'imagine ce que ça va donner quand c'est inondé de soleil. Avec des mandariniers ou des orangers.
Des orangers,
mais... L'été avec ses palmiers, ça doit ressembler à certains paysages d'Algérie.
Oui, ouais. Oui, c'est la Méditerranée.
Petit cheval là-bas. Poney. Et le poney qui nous suit.
Et le poney qui nous suit.
Voilà, comme ça. On est dans le
Ah oui.
Voilà. Et vous avez Gourdan, le village de Gourdan.
Qui est là-haut.
Alors c'est une citadelle sarrasine. C'est Djoudran en arabe.
D'accord.
Et c'était une citadelle sarrasine, et de là, il surveillait toute la côte. Et vous avez une autre qui est là, c'est le château du Caire, le Kahira, le Caire. C'est assez étonnant. Ouais. Parce qu'il y a une présence ici.
Je savais qu'il y avait une présence des morts, peut-être, jusque dans la presqu'île de Ramat Vel, puisque oui. Le nom Ramat Vel, je pense.
Ramat Oma.
Voilà, c'est ça. Tout à fait. Cher Khaled Bentounes, pourquoi les islamistes les plus violents en veulent-ils autant aux soufis et au soufisme ?
Depuis le XXe siècle, disons au début du XXe siècle, les lieux saints ont été investis et pris par des théologiens qui sont d'une école, l'école fondamentaliste, l'école du wahhabisme, bloqués dans une compréhension et une interprétation d'un islam purement littéraliste. Donc ce qui fait que l'essence même du message de l'islam, qui a été véhiculé à travers ces lieux où on pouvait avoir une réflexion, on pouvait avoir une vie intérieure intense, eh ben, on les supprime. Et ça va plus loin que les lieux, puisqu'on brûle aussi des manuscrits qui datent de plusieurs siècles, que ce soit à Tombouctou, que ce soit ailleurs, en Libye. En détruisant la mémoire, on détruit les mémoires. On cherche à imposer une vision de l'islam qui, aujourd'hui, est, à mon sens, catastrophique, parce qu'elle vide ce message millénaire qui a 15 siècles d'histoire, elle le vide de sa spiritualité, de sa philosophie, de son humanisme, de son approche humaine. Et on n'est que dans une approche politique, d'où danger. Parce que la politique, c'est la conquête du pouvoir. Et si on prend cette voie, c'est une voie sans issue, c'est un projet qui n'a pas une vision d'un avenir. C'est un avenir qui nous renvoie au passé, mais efface la mémoire du passé. C'est un paradoxe. Le soufisme, il faut bien le situer dans l'histoire. Le soufisme a toujours existé, accompagné, depuis l'origine du message, cet islam de tolérance, d'ouverture, de fraternité. Au XIXe siècle, mais même au début du XXe, le soufisme était majoritaire dans les pays musulmans. Le wahhabisme était considéré à ses débuts comme une hérésie. Par l'ensemble des musulmans, des savants musulmans, des théologiens musulmans, il était considéré comme un extrémisme. Aujourd'hui, c'est l'inverse. C'est-à-dire que c'est le soufisme qui était cette voie d'universalité ésotérique, mystique, avec son approche à la fois sociologique et psychologique, se trouve aujourd'hui de plus en plus ignoré et parfois même, certains disent qu'il n'est même pas de l'islam, qu'il est un héritage qui viendrait probablement d'un courant, soit de la sagesse indienne ou de la philosophie grecque. C'est-à-dire qu'on extrait de sa réalité musulmane qui est là depuis des siècles.
On essaie de couper ses racines.
On essaie de couper ses racines alors que le grand philosophe, les grands poètes de l'islam, les grands juristes musulmans étaient de ce courant et ont fait l'histoire. Donc aujourd'hui, on est dans l'inversion. Par exemple, la notion du djihad. Chez les soufis, la notion du djihad a été toujours la notion d'effort qui est fait sur soi de passer à la pacification. Donc c'est cette quête de soi, cette méutique, c'est cet héritage ancestral de sagesse qui permet à l'homme de pacifier son ego et d'aller vers des états de conscience qui l'amènent vers l'ouverture, vers l'universalité. Voir l'autre comme un miroir et non comme un ennemi. Voir l'autre comme un complément de soi, parce que c'est lui qui nous situe, c'est lui qui nous permet de voir qui nous sommes, dans un dialogue permanent, même avec celui qui vous éprouve, même avec celui qui ne vous comprend pas ou qui a une autre conception. Et aujourd'hui, on assiste, par la mondialisation, par la médiatisation, à un seul courant de pensée qui veut dominer alors qu'il n'est pas majoritaire.
Apparemment, les soufis ne plaisent pas beaucoup aux salafistes, aux fondamentalistes, que ce soit ceux du Mali, du sud de l'Algérie. Est-ce que vous avez été la cible de menaces déjà ?
Chacun de nous est menacé. Aujourd'hui, c'est la raison même qui est menacée. Nous allons vers la déraison. Le déséquilibre est partout. Il y a des menaces. Mon dernier livre, Le sophisme héritage commun, j'ai reçu, oui, des menaces de part et d'autre, parce que pour...
C'est dans ce livre que vous laissiez entendre que finalement les représentations de Mahomet avaient existé.
Tout à fait. Ça fait partie de l'héritage de l'islam. Et les publier était gênant.
La musique et le chant, cauchemar des islamistes radicaux, tiennent donc une place importante dans la spiritualité des disciples du soufisme. L'invocation de Dieu constitue ce que les soufis appellent « dhikr ». La forme collective de cet acte rituel est une danse extatique qui s'ouvre sur une psalmodie du nom d'Allah, réduit peu à peu à un souffle. Ce souffle phénoménal, l'écrivain Jean-Marie Gustave Le Clézio, dans son livre « Désert », le compare au va-et-vient d'une scie immense dévorant le tronc d'un arbre.
La musique, c'est du son. Et les sons, c'est des vibrations. Et je crois que l'univers tout entier émet en permanence un son et des vibrations. La musique, c'est le moyen le plus universel de communiquer les uns avec les autres. Ce qu'on ne peut pas communiquer par la parole, on le communique par la musique. Tout chante dans l'univers. Un oiseau émet un chant, les vagues de l'océan émettent une sorte de musique, la psalmodie du Coran est une musique, l'appel à la prière est une musique. Le Coran cite, il nous demande que le son soit beau, que quand on prononce le nom de Dieu, qu'on le prononce avec un son musical qui permet d'atteindre la conscience, de nourrir la conscience et de nous amener à la réflexion. Le son, c'est par lui que tout s'est transmis, que les connaissances se sont transmises. Et pour nous, effectivement, dans notre rite, la musique à sa place. Quand vous parlez du souffle de la Aymara, je suppose, vous parlez de cette danse, de ce qu'on appelle nous la danse des astres, de ce cercle qui se fait et où il y a un même rythme où le nom de Dieu se manifeste à travers une prise de conscience qu'il est le souffle de l'univers et qu'à un moment donné, on s'extrait de ce monde pour retrouver en nous l'essentiel. L'essentiel, c'est le souffle. C'est ce souffle qui anime chaque créature. C'est ce souffle qui détermine le vivant en nous.
Les femmes ont leur place dans le soufisme. Peut-être est-ce là encore un motif de contrariété pour les fondamentalistes les plus intolérants de l'islam.
Aramıza teşrif eden çok değerli hocalarımıza.
La voix que nous entendons là est celle de la turque Nur Artiran, la Sheikha Nur. Cette musulmane qui n'arbore aucun signe religieux, pas même un foulard sur les cheveux, est le chef spirituel de l'ordre des Mevlevi, les derviches tourneurs. À ses disciples, elle enseigne l'œuvre du poète et maître soufi du XIIIe siècle, Jalal ud-Din Rumi, une œuvre riche de 26 000 vers. Retour à Paris à l'occasion du Maolid ou Mouloud qui célèbre la naissance du prophète Mahomet ou Mohamed. Cette célébration en musique, les fondamentalistes la condamnent. Dans le public du spectacle organisé pour le Maolid, nous faisons la connaissance d'un passionné de scoutisme.
Je m'appelle Younes Aberkan, je suis président des scouts musulmans de France.
C'est Khaled Bentounes de la voix soufie Alaouia qui a créé les scouts musulmans de France au début des années 90.
Dans les scouts musulmans de France, on suit la loi scout de l'Organisation mondiale de Baden-Powell, etc. Le scout est frère des hommes. Et j'apprenais, je révisais ma leçon de scout, parce que les scouts musulmans ont une loi à apprendre. Donc, compagnon des hommes, je suis. À l'humanité une, j'appartiens. À l'humanité une, j'appartiens.
À ce titre, vous avez des contacts avec d'autres scouts, d'autres obédiences ?
Tout à fait. Je suis actuellement président de la commission formation de la Fédération du scoutisme français. Et la Fédération du scoutisme français, toute obédience confondue, c'est-à-dire il y a des juifs, les éclaireurs israélites de France, je leur fais de la publicité aussi, il y a les scouts catholiques, c'est-à-dire les scouts et guides de France, qui sont catholiques, il y a les protestants qu'on appelle les éclaireurs unionistes, et il y a les laïcs, les éclaireurs de France, qui sont laïcs. Et tout cela, avec les scouts musulmans de France, sont réunis dans une fédération. Et on travaille ensemble. Et notre slogan, c'est le vivre ensemble. Nous avons une activité qui est déclenchée par le scoutisme français qui s'appelle « Vis mon camp ». Donc, c'est-à-dire qu'un israélite peut vivre un camp d'un musulman, un musulman peut vivre un catholique peut vivre un camp d'un laïc, etc. etc. Quand un scout, un éclaireur israélite, quand un scout musulman de France, quand ils sont ensemble, ils bâtissent ensemble leur tente, ils bâtissent... Comment voulez-vous qu'après ils se... Comment voulez-vous après qu'il y ait une violence, qu'il y ait une incompréhension, qu'il soit... C'est extraordinaire. Donc, le vivre ensemble, il faut le faire. C'est vraiment le vivre ensemble.
Et les enfants qui constituent actuellement le scoutisme musulman, d'où viennent-ils? De quel milieu? Où est-ce que vous allez les chercher quelquefois?
Vous imaginez bien qu'au sein du scoutisme français, nous sommes l'association qui représente le plus les enfants défavorisés. Les enfants des quartiers difficiles. Et je vous assure, c'est très très prenant quand pour la première fois vous amenez ces enfants dans la forêt. Il n'y a pas de magasin, il n'y a pas de centre commercial, il n'y a pas de jeux vidéo, etc. Et dans un premier temps, des fois, pour eux, c'était un choc. Comment survivre sans champ commercial, sans centre commercial, sans télévision? Alors, ils ont peut-être la radio, mais comment survivre? Et après, ça se passe de manière extraordinaire. Ils découvrent qu'il y a autre chose. Nous, par exemple, dans le scoutisme, ce qu'on fait, c'est que nous formons les jeunes à réfléchir par eux-mêmes. Et à ne pas écouter X ou Y, ils ont un livre, il y a le Coran, ben réfléchissez. Même le Coran leur dit réfléchissez. Alors, il y a un gars qui arrive et me dit, mais vos scouts ne sont pas musulmans, les femmes ne sont pas voilées, comment ça se fait, le voile et ça. Je lui dis, écoute, montre-moi où est écrit dans le livre que les femmes doivent être voilées. Ah, il s'est énervé. Il n'y a nulle part, ça paraît incroyable, ce n'est absolument pas une injonction de l'islam. C'est culturel, c'est culturel. Alors, est-ce que je suis soufi? C'est un peu... C'est pas comme quand on prend une carte au parti politique, au PS. Est-ce que vous êtes PS? Est-ce que vous êtes... J'ai pas ma carte au parti soufi. Mais c'est vrai que le soufisme, j'ai vraiment beaucoup d'attirance pour cette philosophie, qui est une philosophie. Hein, c'est pas une idéologie, c'est une philosophie, c'est une manière de vivre. C'est une manière de vivre, et d'ouverture.
Maintenant dans une brasserie toulousaine, place du Capitole, à Toulouse. Je suis avec Hamid Demou.
Je suis président de la Fédération internationale Soufia Alaouia, qui a son siège à Genève. AESA est une association qui a beaucoup d'actions dans le domaine spirituel, mais aussi dans le domaine culturel et aussi dans le domaine social. Nous avons parmi nos objectifs, je dirais, d'agir auprès d'immigrés dans les différentes villes en Europe. Mais aussi, nous avons un volet qui concerne le développement durable. Et donc, parmi les exemples, je pourrais citer le développement de la culture de l'arcanier qui avait disparu en Algérie, donc qui a été mis en place depuis un certain nombre d'années, qui commence à donner des résultats aujourd'hui.
Qu'est-ce que c'est l'arganier?
Alors l'arganier, c'est un arbre dont on connaît l'utilisation à travers les huiles essentielles. Un arbre qui ne pousse que dans des régions très particulières, notamment au Maroc. Donc c'est au Maroc qu'on connaît la culture de l'arganier. Donc c'est l'huile d'argan qui est utilisée. Mais en faisant des recherches, nous avons constaté qu'il existait aussi dans la région de Mostaganem, mais qu'il avait disparu. D'où l'idée de reprendre cette culture et de développer une activité autour de l'arbre qui est l'arganier.
Et vos activités sont bien sûr pourvoyeuses d'emplois localement?
Alors l'idée, c'est justement de pouvoir ensuite pourvoir des emplois, tout à fait.
Pourquoi le soufisme est-il aussi méconnu des musulmans d'une manière générale?
Il est méconnu parce qu'il ne fait pas partie peut-être des... je dirais d'une volonté qui lui serait intrinsèque de s'imposer à l'autre.
Cette méconnaissance du soufisme parmi beaucoup de musulmans ne tient-elle pas aussi à la grande discrétion dont font preuve les soufis? Il est assez rare d'entendre un soufi se revendiquer comme tel. Il acceptera volontiers de se dire musulman, il ne mettra pas en avant le soufisme.
Alors peut-être que c'est lié à ce que vous avez dit tout à l'heure, hein, dans le sens où c'est une façon de vivre l'islam qui met l'accent sur la dimension spirituelle, donc qui est une recherche intérieure, qui se vit en communauté, mais aussi qui se vit de manière individuelle, mais qui ne cherche pas à s'imposer, et donc qui ne cherche pas le prosélytisme à l'intérieur même, parce qu'il y a à l'intérieur des différentes religions du prosélytisme qui se fait. Lorsqu'on considère qu'on fait partie d'une chapelle, on va chercher peut-être à l'imposer, en tout cas à l'étendre. Le soufisme n'a pas cette démarche-là, puisque ça part d'une démarche personnelle. C'est une recherche déjà, et lorsqu'on on avance, on rencontre le soufisme. Donc on n'en fait pas effectivement la publicité, on n'en parle pas de manière, je dirais, immédiate, mais on ne se cache pas non plus.
بارك لي اللهم في حياتي وجل فؤادي واتنا لياتي.
On ne doit pas s'auto-proclamer soufi, on ne doit pas s'auto-admirer humble.
Ghaleb Bencher, présentateur animateur de l'émission Islam sur France 2.
Une bonne compréhension de l'itinérance spirituelle sur la voie soufie recommande à ne pas s'en autoproclamer, en quelque sorte. Il y a même un vieil adage qui dit que les hommes vertueux, les hommes et les femmes de vertu et de proximité divine sont ceux qui marchent incognito dans les marchés, les souks, comme on dit. Ben, ils vivent parmi nous. Ils n'ont pas à s'en prévaloir.
À partir du moment où il n'y a pas d'autoproclamation, on ne peut pas savoir combien il y a de soufis dans le monde. Allez-y.
Non, mais je pensais l'avoir
coupé. Mais a-t-on une idée de ce que représentent ceux qui s'inspirent du soufisme au sein du monde musulman? Ça représente à peu près quelle proportion?
Je ne veux pas dire de bêtises. En gros, déjà, le nombre des musulmans de par le monde oscille entre 1,75 milliard, 1,5 milliard, un peu plus, un peu moins. Si on a de par le monde 10 à 15% de soufis, ce serait formidable. Et puis, si je puis dire, c'est vrai que l'épithète depuis notre cher président est devenue un peu spéciale, il y a les musulmans normaux. Et puis, on a de l'autre côté du spectre de la gamme, les autres qui sont infiniment encore moins nombreux. Et parmi les musulmans, ils ne sont pas tous pratiquants, et parmi les pratiquants, ils ne sont pas tous de stricte observance, et parmi ceux qui sont de stricte observance, ils ne sont pas tous fondamentalistes, et parmi les fondamentalistes, ils ne sont pas tous salafistes, et parmi les salafistes, ils ne sont pas tous radicaux, et parmi les radicaux, ils ne sont pas tous djihadistes, et parmi les djihadistes, ils ne sont pas tous terroristes, et parmi les terroristes, ils ne passent pas tous à l'acte, et parmi ceux qui passent à l'acte, ils ne réussissent pas tous, et parmi ceux qui réussissent, leurs premières victimes sont les musulmans. Donc il y a toute une fantasmagorie à propos de ceux qui, effectivement, font beaucoup de dégâts, et il incombe aux représentants musulmans, les hiérarques d'une manière générale, de les dénoncer, de les fustiger, de les récuser, de déconstruire leur idéologie et de le faire d'une manière nette, sans embâche, sans équivoque.
Je sais qu'il y a des musulmans qui se revendiquent du soufisme, qui viennent à l'Institut des Cultures d'Islam. On ne sait pas forcément marquer sur leur visage qu'ils adhèrent à telle ou telle confrérie, donc je ne le sais pas forcément.
Véronique Riffel, directrice de l'Institut des Cultures d'Islam à Paris.
C'est sûr que dès qu'on est dans le champ intellectuel, spirituel, d'une façon ou d'une autre, on peut être amené à rencontrer le soufisme, que ce soit de l'intérieur, en se revendiquant soufi, ou en tout cas en l'étudiant, en dialoguant avec des soufis. Après, c'est vrai qu'à l'Institut des Cultures d'Islam, on invite des artistes qui, eux, pour le coup, déclarent d'une façon très ouverte une appartenance au soufisme. Je pense par exemple à Natacha Atlas, récemment, qui est venue, ou Aïcha Redouane, qui sont des femmes qui font partie d'une confrérie soufie. Dès qu'on parle de poésie, de littérature, de pensée, on est proche du soufisme, parce que finalement, le terme soufisme, tout de suite, ça renvoie à quelque chose malgré tout d'assez flou. Je pense que ça n'a jamais été vraiment complètement défini, conceptualisé d'une façon qui, où chacun s'y retrouve vraiment. Et finalement, le dénominateur commun aux soufis, c'est ça. C'est, je pense que c'est cette vivre l'islam d'une façon assez à la fois personnelle et en même temps au sein d'une communauté définie. C'est la reconnaissance d'un maître. C'est effectivement le fait de s'inscrire dans une continuité de pensée, d'adhésion à la pensée de certains théologiens ou poètes ou philosophes. Donc finalement, ce sont des contours qui sont assez mouvants et on ne peut pas arriver comme ça du jour au lendemain en venant de nulle part et dire bah voilà, c'est mon nouveau, ma nouvelle façon de vivre l'islam. Non, ça s'inscrit toujours dans quelque chose de séculaire.
Est-ce qu'on ne peut pas considérer finalement que le musulman de la rue est un soufi sans le savoir ?
Absolument, je pense que c'est une... Vous employez une formulation que je cautionne complètement. Je pense que ce soit des musulmans ordinaires qui n'ont pas écrit ou que ce soit des grands savants, la définition qu'on donne aujourd'hui du soufisme, je dirais que c'est celle tout simplement d'une bonne pratique de l'islam apaisée et ordinaire.
Pardon, monsieur.
Oui.
Est-ce que vous savez ce que c'est le soufisme dans l'islam ?
Je sais plus.
Non, vous ne savez pas ? Vous n'avez jamais entendu parler des soufis ?
Jamais.
Jamais.
Jamais. Non, soufis, jamais. Soufis, jamais.
Merci. C'est votre magasin ? C'est aussi vieux que l'islam.
Comment ?
C'est aussi vieux que l'islam, le soufisme.
Non, je sais pas. Moi, je suis musulman, je pratique mon...
Mais vous n'avez jamais entendu parler des soufis ou du soufisme ?
Non, jamais. Jamais, jamais.
Merci.
Je pratique l'islam. Je sais que l'islam est, comment dire, éduqué. On éduque dans notre enfant. On est bien éduqué. C'est comme ça que l'islam qui a dit ça. Dans le... Non, moi, je connais comme ça. Ils m'ont appris, mon parent... Mes arrière-parents m'ont appris comme ça. On est là. On vit. On sait qu'il y a un bon Dieu. Et tout.
Aux antipodes du salafisme, le soufisme, c'était un reportage d'Alain Le Gouguec. François Rivalan a participé à la prise de son. Anne Lioro a réalisé cette émission, assistée de Jérôme Boulet. Mixage, Stéphane Touvenin. Je vous souhaite un excellent dimanche.